Salut!
Bienvenue sur la radio de PFM pour vous présenter le podcast Oh là là, quelle histoire Oscar! Le podcast qui donne envie de lire, préparé par les CM2 de Madame Mac de l'école Oscar Cléré. Bonne écoute!
Saison 4, épisode 4. C'est parti! Au programme de cet épisode, l'interview de Gérard Papor, auteur de Grand-père, trois chroniques avec Capucine, Karl et Antoine. Puis nous accueillons les CE1 de Madame Cosny qui vont nous lire Odette et son loup.
Et maintenant, place à la chronique de Capucine. Que vas-tu nous présenter?
Si vous aimez les romans d'aventure, vous allez adorer Quatre sœurs à Londres, écrit par Sophia Rigal-Goulard. C'est l'histoire de Laure qui est invitée par son amie de Colovic, sauf que ses parents décident de venir avec elle en famille. Ils vont visiter Londres et vivre de superbes aventures. J'ai aimé lire ce livre car leurs aventures sont marrantes et captivantes et il y a beaucoup de suspense. C'est un roman assez long d'environ 300 pages. Il n'y a pas beaucoup d'illustrations. Je conseillerais ce livre à partir de 10 ans. Je rappelle le titre, Quatre sœurs à Londres, écrit par Sophia Rigal-Goulard et par la maison d'édition Rajo.
Merci Capucine, cela me semble
perfect.
Place à la deuxième chronique de cet épisode. Bienvenue Karl, quel livre est au programme?
Je vais vous présenter La cabane à 26 étages, écrit par Andy Griffiths et illustré par Terry Danton. J'ai choisi ce livre car il y a de l'aventure, du suspense et c'est drôle. Il y a 345 pages environ. C'est l'histoire de Terry et Andy, deux garçons qui vivent dans une cabane à 26 étages. L'histoire se déroule dans la cabane, dans la mer, dans l'espace et à plein d'autres endroits. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a une histoire à chaque chapitre. Je conseillerais ce livre à partir de 10 ans car il y a beaucoup de lectures et assez d'illustrations. Je vous rappelle le titre, La cabane à 26 étages. L'auteur est Andy Griffiths et l'illustrateur est Terry Danton. La maison d'édition est Bayard Aventure.
Merci Karl pour ce conseil lecture. Et maintenant, place à l'interview de Gilles Rapaport, auteur de l'album Grand-père qui parle de la Shoah. Nous avons eu de la chance d'interviewer l'auteur. Maintenant, place à l'interview menée par Félix, Kélia, Maxine, Karl et Garance.
Alors bonjour, nous sommes contents de vous rencontrer en visio et de vous interviewer car nous avons lu et travaillé sur un de vos livres, Grand-père. Nous allons d'abord vous poser quelques questions sur votre métier. Quel est votre métier principal?
Alors, mon métier principal, c'est illustrateur. C'est-à-dire que je dessine toute la journée et je suis aussi auteur. C'est-à-dire que j'écris aussi. Là, par exemple, en ce moment, je suis surtout en train d'écrire. Et quand j'aurai fini d'écrire mon livre, enfin celui que je suis en train de faire, je le dessinerai. Mais mon métier principal, c'est vraiment illustrateur. Pendant des années, j'ai fait que dessiner tous les jours.
Pourquoi avez-vous décidé de faire ce métier?
Eh bien, c'est pas très compliqué. J'ai toujours adoré dessiner. Enfin, quand j'étais à l'école, quand j'avais votre âge. Et même au collège, ensuite, je dessinais tout le temps, tout le temps. J'ai toujours, toujours aimé ça. Et quand j'ai eu 15 ans, j'ai rencontré des illustrateurs. Et je savais pas que c'était un métier. Et donc, j'ai appris que le métier d'illustrateur existait. Et à ce moment-là, j'ai décidé que je ferais ce métier.
Vous débutez l'album par le récit ou par les illustrations?
Ah, c'est une très bonne question. En général, d'abord, j'écris le texte. Et il m'est arrivé une seule fois de commencer un livre par les illustrations parce que j'arrivais pas à écrire le texte. Et ce livre, c'était Champion. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais celui-ci, j'arrivais pas à l'écrire. J'avais une idée du livre, mais j'arrivais vraiment pas à trouver les mots. Donc, j'ai commencé par les dessins et après seulement, j'ai fait les textes. Mais quand je dis que j'ai commencé par les dessins, j'ai pas fait toutes les illustrations. J'ai fait ce qu'on appelle des esquisses. C'est-à-dire que j'ai dessiné très rapidement des idées de dessin. Et quand j'ai construit mon livre avec mes idées de dessin, j'ai écrit mon texte. Alors que Grand-père, j'ai écrit le texte. Et seulement très très longtemps après, quand je l'ai proposé à un éditeur et qu'il l'a accepté, j'ai fait les dessins.
Est-ce que c'est bien une histoire vraie, grand-père?
Non, non, c'est pas une histoire vraie. C'est une histoire vraie et c'est pas une histoire vraie. C'est une histoire vraie parce que c'est l'histoire qui est arrivée à la plupart des déportés. Sauf que les déportés ne survivaient pas, ils mouraient tous à Auschwitz. Donc c'est une histoire où j'ai surtout voulu raconter tout ce que les déportés avaient vécu du moment où ils étaient pris jusqu'au moment où ils allaient à Auschwitz et comment ça se passait à Auschwitz. La seule partie qui est vraie dans cette histoire, c'est la partie qui concerne ma famille, c'est-à-dire tout ce qui se passe à Paris avec mon père, avec son frère, avec mon grand-père et ma grand-mère jusqu'à la guerre. Mais mon grand-père n'a jamais été à Auschwitz. Il n'a pas été pris par les Allemands pour être déporté. Il a été seulement prisonnier de guerre. Alors, je peux vous donner des scoops même. Grand-père, je l'ai écrit il y a 25 ans, voire un peu plus. Et donc, je pensais que mon grand-père avait été pris à Dunkerque. Et en fait, j'ai découvert cette année qu'il n'avait pas été pris à Dunkerque. Il avait été blessé pendant la guerre, pendant une bataille assez célèbre dans l'est de la France. Et c'est à l'hôpital militaire que les Allemands l'ont arrêté et fait prisonnier de guerre. Et donc, ce n'était pas à Dunkerque. Mais ça, je ne le savais pas quand j'ai écrit grand-père. Donc, l'histoire de ma famille, c'est une histoire vraie, sauf que mon grand-père n'a pas été déporté. Et que ma grand-mère n'est pas morte à la fin de la guerre. Elle a survécu. Et mon grand-père aussi a survécu. Donc voilà. Mais ce que je raconte, c'est ce que c'est la vie d'un déporté.
Nous voulions savoir pourquoi vous écrivez des livres tristes qui parlent souvent de la guerre et de la Shoah.
Alors, c'est normal que vous ayez cette impression parce que vous avez étudié grand-père et peut-être vu d'autres livres tristes que j'ai pu faire. Mais comme je disais tout à l'heure, j'ai fait une cinquantaine de livres. Et les livres, entre guillemets, tristes, c'est un dixième de ce que j'ai fait. Même pas. J'ai dû en faire cinq ou six. En réalité, je ne fais pas que ça. Je fais beaucoup de livres drôles. En tout cas, les enfants rient beaucoup souvent en les lisant. Mais je trouve très important de pouvoir faire des albums comme Grand-père qui transmettent des histoires aux enfants, des histoires qui me paraissent importantes qu'ils connaissent ou qu'ils sachent. Donc la Shoah, pour moi, c'est important que vous sachiez qu'elle a existé et ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc c'est important pour moi de faire ce genre de livre, comme l'esclavage quand j'ai fait un homme, où c'est important pour moi qu'on comprenne bien ce qu'était l'esclavage. Mais je ne fais pas du tout que des livres tristes.
Maintenant, nous voudrions parler des illustrations. Nous
Oui.
voudrions savoir pourquoi vous ne mettez pas beaucoup de détails dans vos dessins.
Alors, la raison la plus simple, c'est que je ne sais pas le faire. Ça demande une certaine technique que j'ai pas. La raison un peu plus sérieuse, c'est que quand je mets peu de détails, ça vous oblige à voir ce qui est essentiel dans l'image. C'est-à-dire que vous n'allez pas regarder à droite et à gauche en vous disant c'est bien dessiné, ah ben là on reconnaît bien la tasse qui est dessinée, ou bien le costume est bien dessiné. Non, ce qui compte pour moi, c'est que vous ressentiez une émotion en voyant le dessin. C'est-à-dire que vous vous rendiez compte qu'il se passe quelque chose. Plutôt que vous soyez là en train de vous dire, ah, il y a plein de détails, ah, c'est bien dessiné. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que vous receviez, comment dire, qu'en voyant le dessin, ça vous fasse quelque chose. Mais quelque chose, ça vous rend triste, ça vous énerve, ça vous amuse, ou bien ça crée une émotion comme, je sais pas, une forme de tendresse pour le personnage ou pour ce que je raconte.
Quel thème préférez-vous dans vos livres?
Je ne sais pas s'il y a un thème que je préfère. Parce que j'écris sur plein de sujets. En revanche, il y a des gens comme votre enseignante ou comme Fanny Dauphin qui est à côté, des gens qui travaillent sur les livres et qui ont une vision un petit peu en hauteur sur ce que je fais. Et ce sont eux qui m'ont dit quel était le thème principal de mon travail. Parce que moi, je ne le connais pas. Et ces gens-là m'ont raconté qu'en fait, ce que je racontais, c'était des histoires de gens libres. Des histoires qui disent que le plus important dans l'existence, c'est de rester libre. Et je suis assez d'accord avec elle. Par exemple, grand-père, il est prisonnier à Auschwitz, mais il va choisir de vivre. Et le choix de vivre et d'y arriver en plus, c'est le choix d'un homme libre. Dans Un homme, qui est un livre sur l'esclavage, l'esclave choisit de fuir trois fois, en sachant que la troisième fois, il sera tué. Parce qu'il est plus important pour lui de vivre, de mourir en étant libre que de vivre en étant esclave. Donc, quand je regarde mes livres, en général, je me rends compte que je parle tout le temps de l'importance absolument essentielle de rester libre en toutes circonstances. Et s'il y a un discours que je tiens souvent aux enfants en classe, c'est de les inciter à garder cette idée en tête de rester libre. Libre de penser comme ils veulent, libre d'aller où ils veulent. Libre, c'est-à-dire qu'on ne leur impose pas les choses.
Merci pour cette interview. C'est un livre qui est un sujet difficile mais essentiel. Puis maintenant, Antoine va nous présenter sa chronique sur James et la grosse pêche. Bienvenue Antoine.
Pour ceux qui adorent les aventures et l'irréel, ce livre est pour vous.
Ce livre est incroyablement drôle et à la fois extrêmement mystérieux. L'histoire commence avec James qui a perdu ses parents à son plus jeune âge. Il vit chez ses tantes qui sont très sévères. Tous les jours, les corvées l'appellent. Il coupe le bois, fait le ménage. Mais un jour, il voit un vieillard qui donne des pierres rares. James trébuche sur un péché avec les pierres dans les mains. Les pierres donnent un pouvoir à l'arbre qui produit alors une énorme pêche. Et je vous laisse lire la suite. Je vous recommande ce livre à partir de 8 ans, car il y a quand même plus de 150 pages. Ce livre est très bien illustré par Quentin Blake et l'auteur est Roald Dahl. Je vous rappelle le titre, James et la grosse pêche.
Merci Antoine. Et pour finir, les CE1 de Madame Coisny vont nous lire leur lecture Odette et son loup. C'est un album écrit par Anne-Sophie Plat et Marianne Barcillon.
Odette et son loup. Une histoire de Anne-Sophie Plat et Marianne Barcillon aux éditions Kaléidoscope. Tous les jours, un loup rôdait près d'un poulailler pour apercevoir celle qu'il aimait. Elle s'appelait Odette, c'était la plus chouette des poulettes. Dès qu'il la voyait, une joie immense l'envahissait. Mais quand on est un loup, on ne rôde pas près d'un poulailler comme on veut. Si une poule le remarquait, elle courait jusqu'au grillage, lui caquetait dans les oreilles. « Qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en d'ici, on ne veut pas de toi !» Et le loup repartait. Mais avant, il déposait un petit bouquet pour Odette.
À cause de lui, Odette était de toutes les conversations. « Tu ne veux pas aller lui régler son compte à cet olibrius ?» disait l'une. « Débarrassez-nous de lui une bonne fois pour toutes !» rétorquit l'autre. Odette en avait assez. Un jour, elle se décida à lui dire ses quatre vérités.
Le loup qui patientait près du grillage, comme à son habitude, la vit s'approcher. Odette, plus remontée qu'un coucou, par mes babines, la voilà qui arrive en personne.
Hé, hey, toi, qu'est-ce que tu me veux? Pourquoi viens-tu ici tous les jours? Parce que je suis amoureux de toi. Tant de sincérité laissa Odette bouche bée.
Enfin, tu dis n'importe quoi. Tu peux pas être amoureux de moi. D'abord, tu as des poils et moi des plumes. Ensuite, t'es amusant et moi un bec. Et surtout, je vais pas finir embroché dans ton assiette. Alors, où tu vas?
Mais le loup ne bougea pas. Tu sais, on peut s'aimer même si on n'est pas pareil. Moi, avec un loup, jamais de la vie, ricana Odette. Pourtant, tu ne me connais pas. Que sais-tu de moi, à part que je suis un loup? Rien du tout, répondit-elle contrariée. Alors, rendez-vous demain, tu verras bien.
Le loup dépose ça, bouquet et autres notes de la soirée.
Ce soir-là, alors que tout le poulailler ronflait, Odette n'arrivait pas à fermer l'œil. Elle pensait à ce que le loup lui avait dit. Voyons, Odette, tu as perdu la tête. Un loup amoureuse d'une poule, on n'a jamais vu ça. Les loups n'aiment pas les poules, ils en raffolent, seraient péta-t-elle. Et là-dessus, elle s'endormit.
Le lendemain matin, au petit déjeuner, les amis d'Odette se ruèrent sur elle sans lui laisser le temps de picorer une graine. « J'espère que tu lui as bien cloué le bec et qu'il ne viendra plus rôder par ici. Qu'est-ce qu'il s'imagine? Une poule amoureuse d'un loup, c'est n'importe quoi. Évidemment, toutes les poules sont folles de moi, » se vanta le coq. « Eh bien, pas moi, » répondit Odette en quittant la mangeoire. D'ailleurs, personne ici ne le connaît, ce loup.
Lasse des commérages, Odette avança d'une patte décidée, vers le loup qui l'attendait comme à l'accoutumée. Il souriait à pleines dents. « Cache-moi dans ces crocs !» cria-t-elle. « On dirait que tu veux me boulotter. » « Bon, ne traînons pas, j'ai préparé une liste de questions afin de faire connaissance. »
« Alors, pour commencer, comment tu t'appelles ?»« Jean-Loup. » Quelle est ta couleur préférée? Le gris. Eh bien, moi, c'est le rouge. Tu vois, ça commence mal. Aimes-tu les blagues? Oui, répondit le loup en souriant. Moi aussi. Ça nous fait déjà un point commun, se réjouit le loup. Tu connais celle du petit déjeuner? Non, pas de bol, esclava-t-il. Arrête de sourire, tu me donnes la chair de poule, répondit Odette en retenant doucement. À la fin de son interrogatoire, la poulette proposa « Rendez-vous demain, même heure, j'ai d'autres questions à te poser, ça
propre curiosité l'étonna, le loup la salua et déposa son petit bouquet.
Le lendemain, Odette le rejoignit près du grillage. « Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Je me suis dit qu'un peu de limonade maison serait des plus agréables pour discuter. » « Merci. » Odette n'osa pas lui avouer que la limonade était sa boisson préférée. « Aimes-tu la lecture ?» demanda-t-elle. « Oui, surtout les histoires d'amour, comme les Hauts de Hurleloup et Sur la route du poulailler. » Odette rougit, elle en raffolait aussi. « Où pars-tu en vacances ?»« Je ne suis jamais partie, mais on pourrait voyager ensemble. »« Pourquoi pas ?» coqueta Odette. « Continuons. »
À la fin toujours, douloureux et fou, en déposant ce petit bouquet, Lolo ajouta tout fin ou n'est pas si différent, toi et moi. Odette retourna chez elle en commolant. Il m'énerve celui-là avec ce poids. Oh, comment pff.
Cette nuit-là, pourtant, elle rêva qu'elle sirotait de la limonade sur une plage de sable blanc et riait avec Jean-Loup. Elle se réveilla en sursaut.
Le lendemain, près du grillage, le poulailler tout entier l'attendait. Le manège d'Odette n'avait échappé à personne. « Qu'est-ce que vous faites là ?» demanda la poulette. « Et qui sont tous ces coqs ?» On a eu envie de t'aider, on t'a organisé quelques rendez-vous, s'exclamèrent les poules. Odette passa devant les prédentants. Chaque volatile trônait près d'un écriteau présentant ses qualités. Il y avait un coq sportif, un maître coq en patte, mais le premier n'aimait pas l'air. Le deuxième ne savait pas faire de limonade et le troisième détestait voyager.
Elle finit par éclater. « Je suis libre d'aimer qui je veux !» Cette réponse ne plut guère à la basse-cour lorsqu'elles aperçurent Jean-Loup qui s'approchait avec son petit bouquet. Les poules étaient décidées à en découdre. « Bon, ça suffit ! Cette histoire n'a ni queue ni tête. Tu es un vilain méchant. » Pour Odette, c'en était trop. Elle gonfla ses plumes et s'écria « La barbe !» Décidément, vous ne comprenez rien. Alors que les choses soient claires, vous pouvez penser ce que vous voulez. Jean-Loup, je l'aime.
Sur ce, elle sauta par-dessus le grillage, s'approcha du loup et lui donna un baiser passionné. Et c'est ainsi qu'Odette cloua le bec à tout le poulailler.
Merci et bravo les CE1 pour cette lecture.
Voilà, oh là là, quelle histoire Oscar, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à PFM et aux invités, c'était André
et Sacha.
Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour de nouvelles aventures.
Vas-y, bravo.